8h. Enfin, c'est l'heure. Vous êtes conviés dans le bureau des commissaires.
Bienvenue dans le bureau des commissaires. Salut Alain.
Allô Alain.
Messieurs, comment allez-vous?
Bien Alain, toi?
Bien toi? Yes, oui.
Ça va très très bien, très très bien.
J'ai 8,85 millions de bonnes raisons pour être de bonne humeur, Alain. C'est quoi ta première réaction?
Pas moi personnellement.
Non. Ouais, finalement, vu de même, moi non plus. Mais c'est quoi ta première réaction à chaud du contrat d'Hudson?
Écoute, c'est exactement dans l'espèce de politique que Kent Hughes a établie chez le Canadien. Il n'a pas surpayé comme on aurait pu penser là, après le contrat de Kaprizov. Quand on a vu, est-ce qu'on s'est dit est-ce que les contrats vont augmenter maintenant? Est-ce qu'il va prendre un pont parce que le plafond va augmenter dans les prochaines années? Parce que du côté de Lennartson aussi, tu sais, il n'y avait pas beaucoup d'options. Là. Il ne pouvait pas être agent libre, il n'y a pas droit à l'arbitrage. Tu sais, là, tu n'avais pas ben des options. Fait que, et il était intéressé à s'associer aux Canadiens à long terme. Alors, et Kent Hughes respecte son échelle de salaire. Alors, tout le monde est content. Le noyau de joueurs est sous contrat pour plusieurs années. Alors, il reste plus juste à gagner des matchs maintenant.
Ah ouais, puis tu sais, au final, là, je regardais un graphique qui a passé hier sur Internet, puis ça décline le contrat de Lane Hudson, qui vaut 8,85 millions, mais qu'au fur et à mesure que les années vont avancer, le plafond va augmenter rapidement. Ouais. On parle d'un contrat d'une valeur d'en bas de 7 millions, en bas de 6 millions, et même à sa dernière année...
Par rapport au pourcentage.
Par rapport au pourcentage de la masse. Ouais. Ouais. La dernière année, en 2034, c'est 5,4 millions ce que va valoir Lane Hudson pour le Canadien de Montréal, parce que le plafond, à ce moment-là, on projette qu'il sera, je sais pas, à 135 millions ou peu importe. Là. C'est quand même impressionnant de voir que le jeune défenseur, et ça, on a pu le lire un peu partout, Alain, il voulait pas être une distraction. Lui, il voulait jouer au hockey, puis il était tanné que ça traîne, puis on peut tourner la page. Je m'attends à un bon match ce soir de sa part.
Non, j'ai hâte de voir, parce que, tu sais, il y a eu une première semaine discrète, là. C'est pas le Lane Hudson.
Correct, mais pas à la Lane Hudson, mettons, là.
Non, c'est ça, exact. Est-ce que c'est ça qui l'embêtait? Maintenant que c'est réglé, est-ce qu'on va revoir le Lane Hudson qu'on a connu l'an dernier? J'ai hâte de voir, mais, tu sais, c'est... tous ces jeunes-là, tu parlais d'Hudson, mais tu sais, Slavkovski, Suzuki... Éventuellement, ça va être des contrats qui vont devenir des aubaines ça, dans la Ligue nationale de hockey, mais en même temps, ça montre qu'ils étaient prêts à s'engager avec le Canadien afin de garder le noyau ensemble et puis en espérant que l'équipe gagne un jour la Coupe Stanley. Alors, c'est un peu probablement la philosophie de Lane Hudson. Il est content à Montréal, il aime l'organisation, exact. Il aime ses coéquipiers. Alors, il dit « moi, je vais m'engager à long terme ». Puis tu sais, on s'entend, là, c'est quand même 8 millions de dollars, là, c'est pas rien non plus.
Il est pas dans la rue, là.
Non, c'est ça. Mais c'est sûr qu'à la limite, il aurait pu en avoir plus, là. Mais il a décidé, ça va être correct, puis je m'engage à long terme. Puis ça a fait l'affaire de Kent Hughes, parce que lui, ça respecte un peu sa philosophie et son échelle salariale.
Exact.
Parce que lui, il a pas l'air un gars, tu sais, il emmène pas large, les notions. Il veut pas faire de vagues, il veut pas faire de bruit, puis tout le monde en parlait, tu sais. Ça avait été, ça, je disais au gars tout à l'heure, ça avait été à Columbus, là, ou à Saint-Louis, le contrat de les notions, on s'en fout, mais l'an 40, who gives a shit. Mais à Montréal, c'est the talk of the town.
Puis, non,
nécessairement, ça te met un petit peu plus de pression parce que, tu sais, t'es bien beau dire, les gars, oh, moi, je lis pas les journaux, puis j'écoute pas la radio, puis je regarde pas la TV. C'est pas vrai, là. Ils savent exactement ce qui se passe, puis les gens parlent de ça, puis ça te joue dans la tête. Tony, ça te joue dans la tête.
Je suis d'accord, Gilles, mais ça met de la pression aussi sur le directeur général. Tu veux pas que ton équipe se mette à glisser parce que ça devient trop gros, là.
Ben, c'est exactement ça.
Dans les deux sens, je pense que tout le monde gagnait à régler ça rapidement.
Exactement, t'as raison.
Kent Hughes avait le gros bout du bâton. T'sais, honnêtement, Hudson avait... C'est quoi l'arme de négociation de Lane Hudson?
Ben, une bonne, très bonne
trophée Calder.
Trophée Calder, très bonne.
Non, mais je veux dire, il va dire quoi? Je reste chez nous. Il peut pas aller en arbitrage, il peut pas être agent libre. Il n'y a pas de...
Ah, je comprends, mais si, mettons, là, il laisse aller sa saison complète puis il refait encore 60 points, là, ben, l'année prochaine, il se présente à la table de négociation puis c'est 1,5 million de plus.
Là. Ouais. Ah oui, c'est sûr que là, tu sais, c'est le gamble qu'il aurait pu prendre, dire, écoutez, on va attendre à la fin de l'année, je vais miser sur moi-même puis on verra ce qui va arriver. Là. C'est sûr qu'il aurait pu faire ça.
Ouais. Moi, je suis convaincu qu'il était pas à l'aise de faire ça. Hier, là, il l'a avoué, là, littéralement, dans une question. Est-ce que ça t'a dérangé? Ouais, pas vraiment. Oh, et finalement, peut-être un petit peu. Ben oui, c'est ça. On l'a bien vu. Là. Il sentait que mal joué, on sentait peut-être plus hésitant, essayer d'en faire un petit peu trop. Moi, je pense que là, il va jouer sans aucune pression. Ça va très bien aller.
C'est important aussi de le respect entre le DG et le joueur.
Ben oui.
Tu sais, parce que c'est plus. On n'est pas dans les années 60, le Sam Pollock, le take this, or I don't give a shit, tu t'en vas. Tu comprends, là, à cette heure, là, c'est une question de respect. Puis je pense que Kent Hughes a une bonne relation avec ses joueurs. Puis tu veux ça. Tu veux pas que les gars soient en. Est-ce que je peux me permettre un. Tu veux pas que les gars soient en crise après Kent Hughes à tous les jours?
C'est bon, je te comprends? Le donnerai pas.
Tu me le donnes pas. Tu comprends? C'est important, ça, les gars, là. Sérieusement, c'est important.
Ouais.
Tu sais,
c'est un bon point que tu amènes, Gilbert.
Il est cheap. Tu veux pas avoir cette harmonie-là dans le vestiaire?
Non, mais c'est un bon point que tu amènes parce que, tu sais, les agents, ils ont différents rôles avec leurs clients, notamment celui. Tu sais, de les recrinquer quand ça va mal. Tu sais, là, un joueur qui est laissé de côté par son entraîneur, ça va pas bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler son agent. Mm-hmm. Tu sais, puis là, il va dire, ça va mal, mon affaire. Alors, il y a un lien qui se crée entre l'agent et le joueur qui va au-delà de la négociation du contrat. Mm-hmm. Alors, c'est sûr que Kent Hughes, quand il négocie avec les agents, il a déjà été dans leur situation. Il a déjà eu des clients, des joueurs d'hockey, ses clients. Il sait comment dealer. Et regardez une chose. Je lisais un article sur Pat Brisson dans le Journal de Montréal, puis on lui demandait s'il était intéressé un jour à devenir agent de joueur. Et Pat, c'est pas pour l'instant.
Directeur général,
oui. Il dit, les agents de joueurs, on a souvent des outils que les autres n'ont pas. Et regardez Pierre Lacroix, il y a eu du succès au Colorado. Regardez Bill Zito avec les Panthers à Floride, il y a eu du succès, c'est un ancien agent. Regardez Kent Hughes qui est en train de bâtir. Tu sais, les agents, ils ont probablement des outils dans leur coffre que d'autres directeurs gérants n'ont pas, par contre. Parce mm-hmm. qu'ils ont eu cette relation privilégiée avec les joueurs au cours de leur carrière.
Oui, c'est un bon point que tu apportes, Alain. Puis je veux faire du chemin sur ce que Tony a dit un peu plus tôt, tu sais, que Hudson ne voulait pas bouder, puis que la relation est quand même cordiale avec le directeur général. Donnons du crédit au personnel de recruteurs aussi. Parce que je pense que dans les dernières années, le Canadien se fait un point d'honneur de repêcher des gars qui ont une tête sur ses épaules. Et on le voit un peu partout, là. La culture, la chimie, on sème des graines, on veut aller dans la bonne direction. On voit pas un impact nécessairement instantané là-dessus. Sauf que quand tu repêches des joueurs qui ont le cœur et la tête à la bonne place, ben, de m'amener, ça fait des petits au sein de l'organisation. Puis je pense que c'est bien parti. L'effet boule de neige est bien en place. Puis ça s'arrêtera pas, là. Tout le monde va rentrer dans le moule présentement avec le Canadien. Tout le monde semble avoir une volonté de pousser dans la même direction. Je suis fou.
Non, mais là, il s'est rendu une business, le repêchage. Là. Il se présente ben, là, depuis maintenant parce que chacun reste dans sa ville. Là. Mais tu sais, à l'époque, là, quand ils font au combine à Buffalo, là, ils arrivent avec les psychiatres puis les nutritionnistes puis les psychologues. Puis
ah ouais.
Là, ça dépasse le hockey puis les aptitudes, les talents de joueurs de hockey. Là. Puis c'est ta famille, puis qu'est-ce que tu fais dans la vie. Puis si t'étais un chien, quelle sorte de chien que tu serais. Puis tu sais, ça va te dire. Non, mais il leur en pose des questions. Là. C'est puis souvent, alors tu sais, maintenant, les informations qu'on peut ramasser sur un joueur, là, c'est immense et infini. Là, c'est...
Ah oh oui, c'est vrai. Si tu trouves 20$ dans une bolle de toilette, comment tu réagis?
J'aurais aimé ça voir un psychologue poser la question maintenant à Guy Lafleur ou à Peter Stachny. Si t'étais un chien, quelle sorte de chien tu serais? Tabarouette!
Non, mais dans ce temps-là, Gilbert, je pense pas que les techniques de dépistage de recrutement étaient aussi développées.
Il y avait des psychologues sportifs, puis salutations à tous ces gens-là. Je pense qu'ils font un job extraordinaire, tout ça. Puis moi, j'ai été témoin de ça avec des coachs. Là. Des psychologues sportifs qui venaient offrir leur service au club et tout ça. Et le coach tout simplement dit là, I don't believe in that fucking shit.
C'est incroyable.
Ah, mais c'est une autre époque.
Tu parlais de Guy Lafleur tantôt, là. Tu sais, maintenant, les joueurs se présentent au camp d'entraînement, sont top shape. Mais je me souviens, Guy Lafleur, il arrive au camp d'entraînement à un moment donné, puis les gars, les journalistes demandent qu'est-ce que tu as fait cet été pour t'entraîner. Ah, j'ai joué au tennis, j'ai fait du ski nautique.
Ouais, exact. Ouais, une couple de games de tennis, du ski nautique. Ouais.
Il avait répondu. Puis, t'es pas allé au gymnase, j'ai jamais vu personne gagner un coup de Stanley en chouclac.
Ah, c'est très bon. Les gars, après la pause, j'ai une question pour vous. Parmi tous les contrats octroyés par Kent Hughes, lequel est le meilleur à votre avis? C'est-tu Hudson à 8,85, Caulfield à 7,85, Slaff à 7,6, Dobson à 9,5, Goulet à 5,5, Montembeau à 3,15? Oh, selon vous, de tous les excellents contrats de Kent Hughes, lequel vous préférez puis pour quelle raison, évidemment? C'est ce qu'on fait dans le retour. 8h18 dans le bureau des commissaires. Quel est le meilleur contrat octroyé par Kent Hughes? Vous pouvez répondre aussi sur la messagerie texte 514-790-0919. Hodgson à 8,85. Caulfield à 7,85. Slaff à 7,6. Dobson à 9,5. Goulet à 5,5. Au Montembeau à 3,15. Ceci dit, contrat court terme dans le cas de Montembeau. Je commence avec toi, Tony.
Oui, effectivement, moi j'aurais répondu Samuel, sauf que il lui reste seulement 2 années de contrat. Mais c'est un excellent contrat pour service rendu. Un gardien numéro 1 qu'on paye à peine plus de 3 millions. Ça, c'est un excellent contrat. Mais moi, je persiste à croire que le contrat de Juraj Slafkovský va très bien vieillir. Je sais qu'il y a ses détracteurs, mais à 7,6 millions, si même s'il poursuit là, sa courbe de progression au rythme actuel, ce sera un très bon contrat dans la conjoncture actuelle d'augmentation du plafond salarial.
Gilbert.
Les gars, moi, vous savez que j'ai un faible pour les défenseurs. Puis, oui, Hodgson, oui, Dobson, mais moi, je pense que Caden Goulet à 5,5 millions par année. Tu sais, tu as parlé tout à l'heure défenseur, tu sais, défenseur numéro un, Hodgson. Moi, honnêtement, mon général à la défense, c'est Caden Goulet chez le Canadien. Je regrette, là, c'est sûr qu'il est peut-être pas aussi flashé, il ramassera peut-être pas autant de points, mais de la façon qu'il joue la game sur 200 pieds, il frappe. Il va se battre, il va être là pour ses coéquipiers. Il a une présence à Dallas. C'est vraiment leadership. Du leadership. Moi, je pense que son contrat à 5,5 millions, là, c'est une aubaine.
Ah ouais, puis tu sais, il y a des gens qui disent « Ouais, mais lui, il signe un peu moins long terme. » Ouais, mais il vient de commencer son contrat, puis c'est un contrat de 6 ans.
Alors, c'est
il est là pour un bout. Là,
c'est un excellent contrat.
Ben oui.
Alain?
Moi, je suis d'accord avec Gilbert. C'est mon choix aussi, Caden Goulet. Parce que dans le cas de Suzuki, Caulfield, Hodgson, c'est des très bons contrats. Tu sais, il n'y a pas d'erreur. Suzuki, tu parles d'un gars, là, qui, tu sais, un des meilleurs joueurs de centre de la Ligue nationale. Caulfield, éventuellement, un marqueur de 40, 45 buts dans la Ligue nationale. Hodgson, déjà gagné le Trophée Calder, va être, tu sais, dans la catégorie, là, des Quinn Hughes puis des meilleurs, au cours de sa carrière. Mais le contrat de Goulet, moi, il y a une chose qui m'intrigue. D'abord, il y a le salaire. Et l'autre chose, pourquoi il a signé 6 ans, lui, il n'a pas signé 8 ans?
Je pense
ils ont tous signé 8 ans, puis lui a juste signé. C'est ça que je comprends pas.
Ben, en même temps, peut-être que ça aurait été plus important en termes de monétaire s'il avait signé 8 ans. Et peut-être que le Canadien craint les blessures aussi dans le cas de Goulet. Est-ce que les autres
c'est
joueurs.
C'est vrai qu'il y a eu des commotions.
Puis, c'est vrai que Slafkovský, à ses débuts, se faisait souvent frapper à la tête, puis Caulfield a été opéré à l'épaule. Mais de façon générale, les gars ont réussi à être en santé avant d'apposer leur nom sur la signature du contrat, tandis que Goulet, lui. Mettons qu'il connaît bien les raccoins de l'infirmerie. Là. Fait que, ouais. Il y a c'est peut-être ça qui rentre en ligne de compte.
Ah, souvenez-vous, quand il est arrivé, on disait là, c'est le gars qui va remplacer. Il y a de la trempe de chez Weber qui est une goulée.
Moi, je suis d'accord avec ça. Moi.
Il y a juste un peu moins d'offensive, selon moi.
Oui. Mais tu sais, à 5 millions, là, pour un gars de son calibre, je pense que c'est un très bon contrat. Ça.
C'est la shot qu'il n'y a pas, c'est tout. Là. Ouais. Il y a quand même un bon lancer, mais chez Weber, c'était son lancer. Parce qu'au point de vue, move de puck puis toute la patente, Caulfield Goulet était aussi bon que chez Weber était. La seule chose, c'est qu'il est moins craint sur le powerplay. Puis chez Weber, tu sais, Caulfield Goulet, il n'ira pas sur le powerplay.
On n'a pas besoin,
Weber,
oui.
Mais non, chez Weber, t'es tout le temps là. C'est là qu'il ramassait son offensive avec son lancer. Mais pour le restant, là, pour la présence et tout ça, moi je trouve que Caden Goulet, vraiment, là, c'est.
Je serais curieux, honnêtement. T'sais, souvent, on voit ça là, durant la saison morte, des top 10, des top 50, les meilleurs contrats et les pires contrats. On se souvient, il y a quelques années, le contrat de Nick Suzuki actuel s'était retrouvé dans une catégorie de pires contrats de la Ligue, selon The Athletic.
Ouais, ça, c'est une vraie farce, ouais, sérieusement.
Ça, c'était pas le meilleur, mettons. Là. Mais je serais curieux de savoir aujourd'hui. Un point de vue externe, là, pas des gens de Montréal, mais un point de vue externe qui couvre la Ligue nationale au grand complet, de voir, mettons, les 25 meilleurs contrats de la Ligue nationale de hockey, combien de contrats du Canadien s'y retrouveraient? Honnêtement, là, moi, je pense que Kent Hughes fait belle figure. Puis j'irais même plus loin. Au moment où on se parle, Kent Hughes, puis là, je sais que j'ai des lunettes roses, puis c'est pas grave. Là.
Parfait, des bobettes, la patente, c'est bon.
Je pense que... Tu m'y passeras, Gilbert. Je pense que il est en lice pour être le directeur général de l'année. Là. L'acquisition de Noah Dobson... L'acquisition de Zachary Bolduc, la prolongation de contrat à Alain Hodgson, c'est bien parti en maudit son affaire. Là.
Exact.
Ouais, si le club se qualifie en série puis poursuit sa progression, connaît une meilleure saison que la précédente, moi je pense qu'il va faire partie des candidats.
En tout cas, je serais surpris du contraire. Alain, on a beaucoup de questions qui rentrent sur la messagerie texte. Pour les droits de télévision, les contrats nationaux, les contrats locaux, on sait maintenant les droits locaux du Canadien de Montréal. C'est tombé au cours des derniers jours. RDS va avoir 45 matchs du Canadien l'année prochaine. C'était plus dans l'ordre du 60 par le passé. C'est rendu 45, mais on savait pas comment ça allait tourner. À l'interne, je présume que vous considérez ça comme une bonne nouvelle?
Ben écoute, c'est ce qu'on entendait. Je vais t'avouer que je pense que moi, j'ai pas été surpris. Puis, je n'ai pas parlé à Pierre, Marc et aux gens d'RDS depuis, là, mais c'est ce qu'on entendait, que RDS voulait conserver les droits régionaux. On savait qu'il y aurait moins de matchs parce que dans le contrat national avec Sportsnet, on a ajouté une quinzaine de matchs nationaux. Alors, on savait qu'on en ferait moins. C'est ce qui est arrivé. Est-ce que maintenant les droits nationaux, Bell est dans la course pour les obtenir? Je ne sais pas. Souvenez-vous de France-Margaret Bélanger, quand elle a donné sa conférence il y a deux semaines, elle a parlé qu'il y aurait des matchs sur les plateformes. Là. Alors, il va en avoir combien? Mais pour le, pour RDS, là, je vais t'avouer que c'est ce qu'on entendait dans la boîte, là, que c'est ce qu'RDS visait, conserver le contrat qu'on a actuellement, même si ça implique qu'on va présenter moins de matchs.
Exact. Et là, comme tu l'as si bien mentionné, c'est 45 matchs, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on ne va pas augmenter la pointe de tarte au cours des prochaines semaines.
C'est ça. Exact. Exact. Parce que, tu sais, les plateformes, est-ce que, bon, là, il y a des rumeurs qui disent que ça pourrait être sur Abs TV, par exemple, que le Canadien pourrait présenter, produire lui-même ses matchs, en produire une dizaine. Est-ce que ça pourrait être sur Crave? Tu sais, ça en est une plateforme, ça, Crave aussi. Là. Alors, est-ce que Bell reviendra à la charge? C'est ça qu'on ne sait pas pour le moment, mais en ce qui a trait au contrat des matchs régionaux, c'est la rumeur qui circulait dans la boîte depuis un certain temps.
Vous autres, là, aimez-vous ça, mettons, là, que le Canadien pourrait produire ses propres matchs? Tu sais, dans un contexte de neutralité journalistique, dans un contexte que... Tu sais, mettons, là, je dis n'importe quoi. Caulfield, il y en a de mauvaise dans le système. Là.
Ouais.
Mais la game est produite par le Canadien de Montréal. Est-ce qu'on va être à l'aise de dire réellement la vérité ou est-ce qu'on va toujours un peu maquiller la situation? Moi, j'ai un point d'interrogation qui m'apparaît quand on me dit que le Canadien pourrait produire ses propres matchs. Ben, je vais commencer avec toi. Comment tu vois ça?
Ben, faut que tu sois impartial. Faut que tu dises les vraies choses. Tu sais, je pense que les auditeurs, les téléspectateurs sont en droit d'avoir la vraie histoire. Tu sais, si c'est blanc, c'est blanc. Si c'est noir, c'est noir. Si ça va bien, ça va bien. Si ça va mal, ça va mal. Pas que tu sois, comme tu disais, avec les lunettes roses tout le temps.
Mais tu sais, Tony, t'es un descripteur, là. Si ton employeur, celui qui te paye, c'est le Canadien de Montréal, je veux dire, est-ce que t'es capable quand même de faire ton travail adéquatement?
Ben, regarde, moi, là, j'ai fait du hockey en masse depuis les 15-20 dernières années. Je n'ai jamais été un employé d'équipe, que ce soit d'hockey dans l'hockey junior ou encore avec le Rocket de Laval. Moi, mon chèque de paie, c'était BPM Sport. Mais pour moi, le fait de voyager avec une équipe, au quotidien, c'est un certain privilège, puis il y a un devoir de réserve, il y a des choses que tu racontes pas. Mais moi, j'ai très bien composé avec ça toute ma carrière, puis je vois absolument aucun problème avec ça. C'est un fil de fer, tu restes sur le fil de fer, puis c'est tout. Puis je pense que le Canadien fonctionne très bien avec ça. Si on a des messages à donner, on les passe, mais... À chaque fois que j'ai eu à dealer ce genre de situation-là avec le Canadien, ça s'est toujours très bien passé. Ouais, mais... Il y a une bonne entente là-dedans. Il y a un devoir de réserve. Moi, j'ai pas de problème là-dessus, honnêtement.
Mais tu sais, t'es jamais arrivé. Là. Puis Alain, toi aussi, je te pose la question aux deux, parce qu'Alain, t'en as décrit un paquet de games aussi. Ouais, il y en a un qui a eu c'est un mauvais match pour lui ce soir. Il est pas dedans, tout ça. Tu peux
savoir des réponses. J'ai jamais eu ça en 8 ans avec le Rocket. Jamais personne de l'organisation m'a approché pour en parler. Jamais. Pas une fois.
Alain. Ben, tu sais, honnêtement, si les gars sont honnêtes avec eux autres.
Puis toi, Alain?
Jamais. Oui, tu sais, la ligne était mince. Là. C'est sûr que c'était mes contrats étaient avec les stations de radio. Mais tu sais, la ligne est mince. Il y a une collaboration entre la station de radio et le club de hockey, là, les articles dans le temps. Pis, mais jamais, il n'y a jamais personne qui est venu me voir, parle pas de ça, t'aurais pas dû dire ça, t'aurais pas dû faire ça. Pis c'est la même chose à RDS, il n'y a jamais personne qui m'a dit, parlez pas de ça. Puis on, tu sais, c'est jamais... Mais aux États-Unis, il faut savoir qu'aux États-Unis, la plupart des clubs, là, les diffuseurs, c'est des employés du club. Là. Mm-hmm. C'est très souvent, là, les réseaux de télé puis les stations de radio, c'est des employés, carrément des employés de l'équipe.
Ouais.
Ici, on n'est pas habitué à ça.
Exact.
Il y a une ligne qui est mince, par exemple, là, mais moi, jamais, on est venu me dire « Pourquoi tu as dit ça? T'aurais pas dû parler de ça? » Jamais.
Dans la Ligue américaine, désolé, c'est 85% des clubs, à peu près, dont les descripteurs sont des employés de l'équipe.
Ah ouais.
85%. Alors, je croyais... Mes collègues, là, ce sont tous des employés des équipes. parce que c'est dur à rentabiliser. Alors, si vous lisez entre les lignes, c'est assez clair pourquoi qu'on diffuse plus le Rocket de Laval à notre antenne. Ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, pour que les équipes puissent avoir une certaine couverture, ils n'ont pas le choix d'investir dans le produit pour les présenter.
Il ne faut pas être dupe, là. Quand même bien que les gens d'ici ne sont pas payés par le club, évidemment, on décrit les matchs avec un billet pour le Canadien. C'est normal, là. Les gens qui t'écoutent, des fans du Canadien, c'est de même, ça marche. On n'est pas des épais.
Je
veux dire, c'est tout à fait normal que tu veux que ta diffusion soit appréciée des spectateurs, que tu le regardes avec un point de vue du Canadien de Montréal. L'inverse serait ridicule.
Je dirais que quand au niveau national, quand tu as un contrat national, c'est peut-être plus d'indépendance par rapport à l'équipe, parce que là, tu as un contrat avec la Ligue. Tu n'as pas un contrat avec un club en particulier. Là.
C'est vrai.
Dans ce temps-là, tu sais, t'es plus détaché. Quand t'as un contrat régional comme nous autres, ben là, t'as un deal que tu passes avec le club, là. C'est pas un deal que tu passes avec la Ligue.
Très bien dit. C'était bien intéressant. Merci, Alain, de nous avoir apporté des précisions de l'interne de RDS. C'est toujours apprécié. Puis on se reparle demain, 8h.
Salut tout le monde. Bonne journée.
Salut, Alain.
Bonne game,
bye. Oui, bon match ce soir.
Bon match ce soir.
Kraken de Seattle. D'ailleurs, je me rétracte. J'ai dit plus tôt à l'émission que le Canadien a battu le Kraken en mars. J'ai mal regardé, c'était en mars 2024, et non en mars 2025. Le fameux match là, de début de la prolongation là, qu'on s'est fait avoir, Montour.
C'est qui était à l'aile? C'était-tu Caulfield?
Oui, c'était Caulfield, selon Olivier Pellemin.
C'était Caulfield. T'as appris comment? 7 secondes?
Là, ça avait été une fraction de seconde.
C'est Hudson qui s'était fait dépasser.
C'est vrai.
Il s'était fait blâmer et qui était fâché après le match.
On avait regardé la game en
live. On était ici.
Live.
D'ailleurs, on va avoir un viewing party la semaine prochaine.
On va faire ça. Des matchs dans l'Ouest.
On va ouvrir les micros en Simonac.
Ça va être le fun. Monsieur. On va aller à la pause. De l'autre côté, ça va mal à la shop pour les Jays. Mais il y a un dicton qui dit, si tu fais toujours les mêmes gaffes puis pas attendre le même résultat ou quelque chose dans le genre, quelque chose qui ressemble à ça, là. Madame Marc Griffin au retour de la pause, celle qui va pouvoir m'aider. Restez donc là.